J'avais aussi vraiment très envie de parler du groupe, qui est aussi un sujet qui est très important dans mon travail en général et dans ma vie en tant qu'être humain. Il y a des endroits où on a besoin, pour continuer à avancer, notamment quand on est conscient des luttes, etc. Il y a besoin d'avoir de l'espoir. Moi, c'est là que je le mets. C'est drôle parce qu'il y a des lesbiennes dans mes BD car je suis lesbienne. Et donc, pour moi, le groupe, en fait, dans nos communautés, il est aussi très important et différent peut-être que dans d'autres endroits de la société qui sont moins en marge. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Des fois, on me demande si est-ce que je fais des lesbiennes parce que pour moi, il n'y a aucun souci dans les communautés lesbiennes. Pas du tout. C'est juste que j'ai envie de montrer des choses que je veux voir et aussi, on nous voit assez rarement.
Bonjour à tous, je m'appelle Bérénice et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Aujourd'hui est une journée particulière puisque nous sommes le 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Myrion Mal, illustratrice et autrice de bande dessinée depuis 2013. Myrion Mal s'est mise à la fiction en 2020 et les titres de ses romans graphiques m'ont toujours frappée par leur poésie. C'est comme ça que je disparais en 2020. Qui abordait la dépression et les violences sexuelles. Adieu, triste amour, en 2022, racontait comment un comportement passé du copain de Cléo pouvait remettre en question sa relation avec lui. La jeune BDiste vient de publier un nouvel opus, Clémence en colère, aux éditions La Ville Brûle, un nom plus rugueux que les précédents, qui tombe comme une sentence. Tout le long de la BD, des petits halos rouges de mécontentement ne quittent pas les joues du personnage principal. Et y a de quoi ? Entre l'inefficacité de la justice pour traiter des VSS, les réseaux sociaux qui grondent autant qu'ils dépriment, et ses traumatismes personnels, Clémence atteint un point de non-retour. Elle rejoint alors un groupe de parole qui réunit des femmes ayant elles aussi subi des violences sexuelles. 15 semaines, 15 séances de travail, durant lesquelles ensemble elles vont se livrer et s'aider. La BD se transforme presque en un petit guide de survie, mais pas que. Ce roman graphique milite aussi pour que les minorités, ici les lesbiennes, aient le droit à leur dose de fiction douce. La jeune femme se recompose grâce à ses amours, ses amis, ses livres aussi. Bref, Clémence en colère n'a qu'un seul but, celui de réparer les vivantes.
Je crois que c'est un truc, dans ma relation à vous, je crois que j'ai jamais été aussi certaine que vous serez là toute ma vie et d'une manière complètement folle, quoi. Moi, quand je reçois un texto de vous sur Messenger ou je sais pas quoi, j'étais en voiture une fois et je me suis arrêtée sur le côté de la route. Il y a un côté tellement genre « Stop !» Il y a Marseille qui m'a écrit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a un espèce de truc, ça, c'est... Ouais, il y a un... Enfin... On est des... Ouais, des guerrières ensemble et il y a un... C'est d'une puissance de feu, quoi. Et en plus, c'est gratuit. Oui.
Bonjour Myrion Mal et merci beaucoup de venir répondre aux questions du lobby dans notre émission hebdomadaire.
Bonjour, merci de m'inviter.
Comme je le rappelais en intro, on est le 17 mai, c'est une journée importante pour la cause LGBT et pour la lutte. À l'origine de toute lutte, il y a la colère qui est aussi le départ de ta BD. C'est peut-être ce que j'expliquais en intro, c'est un peu ce qui m'a peut-être choquée quand j'ai vu la couverture de ta BD, c'est que j'ai encore, et on a encore peut-être tous du mal à associer les femmes à la colère. Pourquoi, selon toi ?
Bah, je pense que la colère, déjà, c'est vu comme une émotion qui est très manichéenne, et c'était un petit peu le point de départ du livre, de vouloir... je dis souvent parler de différentes nuances de colère, et où il y a la colère qui est un peu destructrice, et celle qui peut être genre, qui peut au contraire être joyeuse ou donner du pouvoir. Mais aussi en tant que femme, bah forcément, comme on nous apprend beaucoup à rester à notre place, ne pas faire de bruit, s'occuper des gens, être douce, gentille, c'est des choses qu'on nous inculque très tôt. C'est pas du tout des choses biologiques, mais c'est des choses qui sont. Dans lesquelles, quand tu nais et qu'on te met dans la case femme, c'est dans cette case-là qu'on va trouver ça. Et puis la colère, c'est beaucoup plus collé aux hommes. C'est vu comme j'imagine, lié à la force aussi, lié au fait de prendre de la place. Et donc, je pense qu'aux femmes, on leur demande de ne pas se mettre en colère, mais un peu comme à toutes les minorités. C'est un peu le truc de quand on veut lutter pour quelque chose et qu'on dit, rester, ça ne va jamais se faire en étant fâché ou en faisant des dégâts, et qu'on va citer Martin Luther King plutôt que Malcolm X en oubliant tout à fait les réalités de l'histoire des luttes et de leur histoire à eux, bref. Mais du coup, voilà, c'est ça. Par exemple, pour les femmes, ben, dès qu'on est en colère, on est hystérique. Mmh. Et je pense que là, j'avais vraiment envie de juste pas parler de ce cliché sur la colère féminine et de justement voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est qu'être en colère et comment on fait pour être en colère et comment ça se traduit quand on est une femme.
C'est ça, très bien. Puis essayer d'étouffer le feu un peu, comme mm-hmm. tu tires cette métaphore un peu dans toute ta BD. Pour revenir à l'introduction, on a entendu la voix de l'autrice Mathilde Forget discuter avec deux autres femmes qui, comme elle, ont été victimes de viol et ont survécu grâce à un lien qu'elles ont tissé par la suite toutes les trois. C'était un extrait du documentaire « Violée, une histoire de domination » par Clémence Alzard. Pourquoi Clémence, donc le personnage de ta BD, se tourne-t-elle vers ces groupes et va y trouver des réponses bien plus larges que chez, par exemple, un simple psy?
Je fais juste un petit dézoom parce que au début j'avais fait C'est comme ça que je disparais, donc enfin dans ma fiction qui parlait de violences sexuelles aussi et de surtout de réaliser et qui racontait un épisode dépressif. Et en fait après en faisant cette bande dessinée là, j'ai fait aussi Adieu triste amour et j'ai réalisé que c'était deux BD qui parlaient aussi autour de ce thème des violences sexuelles, qui est désolé pas un thème très fun mais qui est bon était à l'intérieur, et surtout de ces histoires pardon, et surtout en fait de guérison, que c'était ça que je voulais explorer. Et l'idée de faire une BD sur la colère, en fait à la base c'était une BD sur la vengeance, sur la justice. En fait pour moi la justice c'était la vengeance parce qu'il n'y avait pas de justice, et en fait en faisant mes autres livres, en moi-même réfléchissant à ces questions-là, en évoluant, il y a eu la vie fait que des fois on change de position, et je me disais mais en fait c'est hyper important d'avoir comme de la joie, d'avoir des choses douces et de se réparer en fait. C'est peut-être passer à une aussi, ça va avec mon intérêt pour la justice réparatrice, la justice transformatrice, etc. Pour moi, donc, c'était un peu la fin de ce triptyque-là sur, autour de la guérison. Par exemple, dans C'est comme ça que je disparais, le personnage principal, Clara, elle n'arrive pas à trouver... Elle cherche un peu une psy, mais c'est aussi la difficulté en fait, de commencer ce travail psy avec... Parce que matériellement, c'est très compliqué, c'est très cher. C'est un enjeu social aussi, l'accès à la santé mentale, aux soins de santé mentale. Et dans Adieu triste amour, Cléo, le personnage principal, elle a une psy. Et donc, pas que j'étais en mode genre 50 nuances de psy, mais je voulais aussi voir un autre aspect de la thérapie. Et notamment parce que là, on arrive avec un personnage qui n'est pas au début... de sa réalisation qu'elle va mal, de ce qu'elle a vécu. Elle a déjà fait un travail sur ça. On ne sait pas si elle a déjà vu une psy ou pas. Moi, dans ma tête, je me dis que oui. Je dis ça parce que les personnages, ils existent juste dans le cadre du livre. Hein. Mais bref. Mais donc, pour moi, c'était... elle est à un certain stade aussi où elle va chercher d'autres réponses. Et donc, comme j'avais aussi vraiment très envie de parler du groupe, qui est aussi un sujet qui est très important dans mon travail en général et dans ma vie en tant qu'être humain, du coup, pour moi, ça faisait du sens. Et surtout qu'il y a la résonance entre son groupe intime, privé, amoureux, amical, et ce groupe-là de femmes où justement elles sont reliées par une expérience commune, mais que c'est un lien qui reste très très fort.
Ouais. J'ai vu avec vos yeux, ce sont des yeux comme les miens, mais ils me regardent de l'extérieur. Comme des petits phares qui éclairent ce que je ne pouvais ou ne voulais pas voir. Je me suis permis de lire cet extrait de ta BD qui est, je trouve, très éclairant sur ce que tu dis et sur ce que apporte ce groupe. Tu as commencé à en parler, mais cette BD, elle retrace les séances, mais aussi le récit un peu des à-côtés de la vie de Clémence, ses aventures, sans trop en dire, surtout de ses amitiés féminines. Et pour moi, les moments de groupe réservaient presque les plus beaux moments de la BD. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas habitué notre regard à voir ça, ouais, à voir ça dans l'art. Et donc pour toi, ces moments, ou en tout cas pour ton personnage, sont aussi reconstructeurs, je vais y arriver, que les séances, c'est ça ?
Pour moi, il y avait ce... Je pense qu'il y a vraiment la question du groupe qui est très, je le redis, mais qui est très importante pour moi dans le sens que c'est là que je mets mon espoir. La communauté, le groupe, comment on existe ensemble, ça peut être destructeur, mais ça peut aussi être extrêmement bénéfique. Et en fait, je pense qu'il y a Il y a des endroits où on a besoin, enfin pour continuer à avancer, notamment quand on est conscient des luttes, etc. Il y a besoin d'avoir de l'espoir. Moi, c'est là que je le mets. Et là, moi, je trouve ça très intéressant de raconter des histoires de groupe. En fait, c'est super intéressant de voir comment on fonctionne tout seul en tant qu'individu. Enfin, je veux dire, j'aime aussi, j'adore les films, les livres qui sont juste des gens qui parlent de leurs émotions. Et je pense que ça se voit aussi dans mon travail. Mais j'aime aussi vraiment beaucoup regarder les groupes et notamment, moi, c'est drôle parce que il y a des lesbiennes dans mes BD car je suis lesbienne et donc. Pour moi, le groupe, en fait, dans nos communautés, il est aussi très important et différent peut-être que dans d'autres endroits de la société qui sont moins en marge. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Des fois, on me demande si est-ce que je fais des lesbiennes parce que pour moi, il n'y a aucun souci dans les communautés lesbiennes. Pas du tout. C'est juste que j'ai envie de montrer des choses que je veux voir et aussi, on nous voit assez rarement. Mais en soi, pour moi, le groupe, je trouve que c'est une façon, quand on essaye d'atteindre une dynamique beaucoup plus égale, en fait, qui demande du travail, certes, mais il y a quelque chose de tellement fort et tellement puissant et tellement beau dans ça, et j'avais vraiment envie de le montrer là, et de le montrer donc, et dans ce groupe-là, d'amis, d'amour, aussi où l'amour et l'amitié se tissent entre elles, je trouve, dans nos communautés et dans d'autres aussi, mais pas dans le sens que tout se mélange et que les frontières sont floues, mais juste, en fait, le couple n'est pas un but en soi et peut exister au sein du groupe, justement. Et de l'autre côté, ce groupe de thérapie où c'est des femmes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même background social, qui probablement ne se seraient jamais rencontrées ou en tout cas ne seraient jamais liées si elles ne s'étaient pas rencontrées là, mais où cette expérience commune du groupe là, bon, du groupe de femmes, du groupe de personnes qui ont vécu des violences sexuelles, il y a un truc où elles se comprennent. À un niveau où d'autres personnes ne pourraient pas se comprendre. Et en fait, c'était peut-être ces deux résonances de groupes qui se comprennent à différents endroits que je voulais montrer et à quel point ça pouvait aider dans la reconstruction et dans la guérison.
Et est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a aucun homme, en tout cas 6, dans ta BD ?
On en voit... Il y a une scène de fête où on voit des hommes gays en arrière-plan... Donc attention, je suis... Mais c'est vrai que là, comme je me suis vraiment concentrée sur ces deux groupes, en effet, il y a encore moins la place aux hommes que dans mes autres livres. Et puis c'est vrai que je pense que mes livres sont un bon reflet des groupes que je connais et j'essaye toujours que ça ait du sens. Par exemple, c'est un peu comme dans les séries, les grosses séries Netflix inclusives où ils vont mettre genre la présidente, ça va être une femme noire lesbienne ou des choses. Socialement, il y a un truc où ça fait pas trop de... Comme on sait très bien que c'est pas ces groupes-là qui ont le pouvoir et que c'est pas juste un truc de tout le monde peut arriver si t'y crois. Bon. Donc, moi, j'essaye un peu de montrer aussi. De montrer les choses comme je les vois, j'imagine.
Et donc
c'est ça. Et même si c'est pas autobiographique, comme je suis dans un truc beaucoup plus de parler des émotions, des nuances d'émotions, je me permets de pas faire trop de travail de recherche et de représenter un peu les groupes dans lesquels j'évolue. Et en effet, comme là, je me concentre vraiment sur deux groupes. Il y en a un, c'est pour les femmes victimes de violences sexuelles, et il y en a un autre, c'est des lesbiennes. Donc forcément, les hommes cis... ils sont pas très très présents. Enfin, c'est terrible parce qu'on dirait que là je vais tout de suite me défendre parce qu'il y a un truc où souvent on me dit, par exemple quand j'ai fait Adieu triste amour, on m'a dit gentiment attention, c'est vrai que comme dans la première partie là où il y a des hommes, ils sont montrés de façon négative, et la deuxième partie là c'est juste des meufs et c'est montré de façon positive, et j'étais en mode mais pas du tout, c'est pas ça, c'est que la première partie c'est un groupe qui travaille pas sur les dynamiques de pouvoir, et la deuxième oui parce que c'est un plus petit groupe, parce qu'elles sont liées par d'autres choses. Et donc voilà, et en fait, j'y ai même pas pensé. Je vais être très sincère, j'y ai même pas pensé à... Et en même temps, je pense que c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on veut quand on parle de regard féminin. Je pense qu'il faut l'éloigner de la question du désir, justement, et rester juste sur les scènes de sexe ou de... Et je pense que c'est bien aussi de réfléchir à pour qui on écrit et qui est-ce qu'on met au centre. Et il se trouve que, moi, j'ai décidé de mettre le groupe... des femmes, je dis le groupe des femmes parce que j'inclus toutes les personnes qui sont perçues comme femmes, même si c'est un peu compliqué des fois de dire ça, mais un terme un peu parapluie, mais dans le sens, toutes les personnes qui partagent un peu cette expérience sociale d'être perçues comme femmes, et je trouve que c'est normal de mettre ça au centre.
Du coup, sans parler de, on va dire, c'est une prise de position, mais c'est encore mieux que tu n'aies même pas fait exprès, en tout cas c'est quand même rare, et il n'y en a pas assez d'œuvres d'art comme ça qui ne reflètent que des réalités féminines, et c'est très bien. Pour moi, ça allait de pair avec une radicalisation, mais pour le coup, assez artistique. Moi, c'est vraiment un album où tu as éclos, que ça soit dans les couleurs. Je parlais des tons beaucoup plus chauds. Mais il y a aussi des expressions du visage beaucoup plus travaillées qui permettent par moments à des planches entières d'être sans phylactère. Et on voit vraiment comment l'émotion du personnage se déploie, que ce soit sur ses mains ou sur son visage. Et tu dis aussi dans beaucoup de tes interviews que, en tout cas, quand Adieu Triste Amour est sorti, que pour toi, ce qui était le plus important, c'était le texte. Et dans cet album, pour moi, il atteint vraiment à son climax, que ce soit dans les théories féministes que tu manies vraiment avec soin, ou même à l'expression des sentiments Clémence, qui sont un lyrisme tel qu'on dirait presque de la poésie. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait naturellement? Enfin, comment tu es arrivée à ce niveau de recherche?
Déjà, merci beaucoup. C'est très gentil. Ça me touche. Non, mais ça me touche parce qu'en fait, il y a un truc aussi où souvent, quand on fait de la BD, comme il y a peu de gens qui sont spécialisés en BD dans les critiques, dans les médias, etc., bah, c'est des retours assez... qui traite pas des fois de la BD comme l'art qu'elle est. Et je dis pas ça pour dire que moi je suis une artiste, mais que la BD, il y a vraiment beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses où la forme et le fond marchent ensemble. Pour moi, c'est très proche, beaucoup plus proche du cinéma, je le dis souvent, que du roman, sans faire de hiérarchisation, mais dans le sens que c'est et l'image et les mots ensemble. Et donc là, bon, bah, voilà, c'est vrai que, en effet, mes bandes dessinées, elles sont très bavardes parce que j'adore faire parler les gens, j'adore les dialogues, j'adore. Et du coup, faut aussi des fois laisser respirer les lectrices, les lecteurs. Et là, c'est vrai que je me suis permis peut-être un peu plus... En fait, moi, ce qui est très important, c'est que... mais je dis souvent que mes dialogues goûtent vrai. Bien sûr, c'est pas des vraies personnes, c'est juste des personnages qui existent dans le cadre d'une histoire. C'est important pour moi aussi de préciser ça. Genre, je sais pas qu'est-ce que c'est leur opéra préféré ou leur couleur préférée. Mais voilà, je trouve que c'est une façon de rendre les personnages aussi plus, de leur donner plus de chair, c'est d'imaginer un peu comment elles parlent, quelles expressions, quel tic de langage, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime trop travailler, imaginer. Ça, c'est vraiment mon fun et ma passion dans l'écriture. Et à côté de ça, là, je me suis un peu permis d'aller vers un truc un peu plus poétique parce que... Enfin, poétique, c'est peut-être un grand mot, mais je sens en fait qu'en ce moment, dans mon travail, j'ai aussi envie d'aller vers des choses un petit peu plus... pas onirique, ouais, peut-être poétique, c'est le mot, mais voilà, des fois, je poste des trucs, bon, sur Instagram, malheureusement, les blogs n'existent plus et Instagram est une multinationale sans âme, mais c'est là qu'on poste nos choses. J'aime bien aller vers des trucs comme ça, un peu plus, voilà, un peu plus imagé, bon. Et donc là, j'ai un peu essayé de mêler les deux, j'espère que ça fonctionne, et en effet, parce qu'il y avait aussi à côté, c'est drôle, des fois, j'écrivais une scène, et c'est fou parce que je bloquais, et là, en une journée, je fais 20 pages de storyboard, j'étais en mode, oh, et à la fin, j'étais comme, oh waouh, j'ai vraiment pris une idée que j'avais dans ma tête et je l'ai développée en écrivant. Enfin, et c'est trop fun, genre un peu la même sensation quand tu vas chez ta psy et que genre tu sais des choses, mais là elle t'aide à les démêler. Là c'était un peu le même feeling et j'étais en mode genre, est-ce que je suis en train de faire ma thérapie en faisant. Non, et donc c'était tu parles de théorie féministe et peut-être que c'était ça aussi, de juste j'avais envie de déplier des idées et de les mettre dans mon livre, et donc peut-être aussi pour contrebalancer ça, d'aller des fois vers des choses un peu plus douces ou un peu plus imagées ou un peu plus ouais, donc voilà, j'ai un peu essayé de faire ça et je suis contente que ce soit souligné parce que bah, je sais pas, ça me fait plaisir, mais c'est vraiment une partie que j'aime trop dans l'écriture, de articuler le dialogue et la construction de l'histoire et tout ça, c'est un truc que je trouve merveilleux dans la bande dessinée, d'avoir toute cette richesse de langage disponible pour raconter des choses, et voilà.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
J'aimerais souligner un autre point qu'on n'a peut-être pas laissé transparaître le long de cette interview, c'est que Clémence en colère est une BD super drôle. On peut lire à un moment donné « Désolée, mais pour des femmes traumatisées, on est hilarante ». Et en fait, oui, tu montres que la légèreté, voire l'humour, est possible dans ces situations, dans des sujets qui, eux, sont graves. Donc pour toi, est-ce que c'est une question de temporalité, de point de vue peut-être ?
Ben moi je pense que je suis pas mal drôle déjà, et du coup c'est quelque chose qui est important pour moi de pas de montrer que je suis drôle, mais en tout cas de mettre de l'humour dans les choses que je fais. J'ai toujours fait ça, même quand je faisais Commando culotte, etc. Que ça soit ludique, bon là c'est différent parce que c'est de la BD didactique, mais là voilà, qu'il y ait de l'humour, c'est bien selon moi. Et aussi là, j'ai essayé de faire un truc dans ce livre, dans les autres en fait j'essaye de prendre très soin notamment de mes lectrices et des lecteurs qui auraient pu vivre des violences sexuelles, parce que là, c'est le sujet un peu de ce triptyque, c'est quand même la toile de fond, il y a cette réalité-là. Et en fait, je veux que ça soit des lectures qui ne soient pas déclenchantes malgré les sujets difficiles. Et là, en fait, j'ai essayé, comme aussi, je me dis, on est un peu dans un stade, le personnage est dans un stade, c'est pas le stade de la réalisation, elle est consciente de ce qu'elle a vécu, etc. Je pose des mots, je pose les mots viol, je pose les mots, voilà, ils sont écrits alors qu'avant je ne les écrivais pas parce que je sais que ça peut être un choc aussi, mais du coup pour faire ça, je me suis aussi dit, ok, il faut que je montre que c'est un environnement safe, désolée parce que le mot sécuritaire ça sonne oui. extrêmement Nicolas Sarkozy, mais du coup d'un endroit safe où ça va pas être dit pour choquer, pour traumatiser, pour et donc à côté de ça c'est aussi important pour créer cette atmosphère là de mettre des blagues, de l'humour, mais aussi juste je raconte des groupes d'amis, des groupes de femmes, et en fait l'humour ça fait partie de nos vies, et je pense que on parle de mettre de la lumière, de mettre de l'espoir, et en fait de pouvoir rire de ces choses là je trouve que c'est hyper important, et ça permet en fait de se les réapproprier aussi, et c'est quelque chose que je dis dans le livre aussi à un moment, de quand on est traumatisé on voit la cause de notre trauma comme quelque chose d'immense et de monstrueux, alors qu'en fait, souvent, c'est des humains qui sont assez médiocres, comme tous les humains un peu nuls, et ça ne veut pas dire qu'ils sont à six pieds sous terre, et ça ne veut pas dire qu'ils sont des monstres, c'est juste des gens dans la moyenne, et en fait, de se rappeler de ça, et l'humour, en fait, on parle souvent du pouvoir politique de l'humour, et la différence de se moquer des gens qui sont opprimés et des gens qui oppriment, et là, c'est un peu ça aussi, je pense, de se réapproprier ces vécus-là, et puis juste aussi, c'est pour montrer la dynamique dans le groupe, etc. Donc, un peu tout ça. Et merci de dire que c'est drôle, car des fois, je suis en mode genre, hey, bonne blague.
J'aimerais te faire écouter la voix d'Iris Bray, réalisatrice de la mini-série lesbienne Split. Elle était notre invitée en décembre 2023 et elle parlait de son envie de créer une série sans antagonisme.
On a dû se battre pour convaincre qu'on n'avait pas besoin d'avoir un antagoniste ou donc un méchant ou une méchante ou des conflits extérieurs pour faire avancer l'intrigue. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché à l'écriture et j'ai tenu parce que évidemment que Split à un endroit est une utopie, mais j'avais envie de montrer que on peut tenir 5 fois 20 minutes sans qu'il y ait de grande méchante ou de grand méchant, et en évacuant en fait la question du conflit externe et de travailler les conflits internes, c'est-à-dire que les personnages eux-mêmes ressentent du conflit et évoluent et s'interrogent et bougent, mais c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Voilà, ce qui est évidemment plus difficile parfois à écrire et à mettre en scène, mais je pense effectivement que c'est comme ça qu'on écrit des nouveaux récits et qu'on peut vraiment penser autrement.
Alors Myriam Ball, selon toi, va-t-on vers l'absence du conflit dans les fictions queer, ou plus simplement, est-ce que tu t'es reconnue dans ces propos d'Iris Bray ?
C'est drôle parce que ça me fait penser à ce que Céline Sciamma disait quand il y a Portrait de la jeune fille en feu qui est sorti. Céline Sciamma qui est une rencontre artistique très importante pour moi. Il y a vraiment eu ça a vraiment bouleversé mon écriture, et puis j'ai écouté beaucoup de choses qu'elle dit sur l'écriture, etc. Et ça a beaucoup beaucoup résonné avec moi. Et donc notamment, je me rappelle qu'à un moment, elle parlait dans Portrait de la jeune fille en feu que c'est une histoire égalitaire, où il n'y a pas de quelqu'un qui domine l'autre, et pareil, qu'il n'y a pas de conflit, et qu'on n'a pas besoin de ça en fait pour raconter des choses, et que c'est quelque chose aussi de très je ne veux pas paraphraser mal ou dire mal, c'est vraiment un souvenir que j'ai qui doit dater de 2020, mais ça m'avait beaucoup marqué en fait, cette idée de l'égalité. Et moi, en pensant au groupe, aux histoires que je veux raconter, je suis en mode oui, c'est vrai que dans les groupes, notamment en marge, bien sûr il y a des dynamiques de pouvoir, mais il y a plus de chances aussi qu'il y ait un travail pour aller vers l'égalité. Et ça, en effet, ça m'intéresse plus en fait que quelque chose de le méchant, les gentils, etc. Et en fait, bien sûr qu'on peut voir où est-ce que je mets mon curseur moral et éthique. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait une maîtrise en études littéraires pour comprendre, pour analyser mes livres et dire peut-être que cette femme est féministe. Et je pense qu'en fait, là, notamment, comme le sujet aussi, c'est dans ces trois livres, c'est beaucoup le système qui écrase les personnes qui sont pas en haut de l'échelle. Là, en focusant sur le groupe des femmes, le groupe des lesbiennes ici, mais on sait très bien en fait qui est-ce qui inflige ces douleurs, qui est-ce qui a le pouvoir. Donc après, au sein de l'histoire, ça sert à rien enfin, pour moi, là, je trouvais que si on veut mettre un méchant, le méchant, il est là, c'est le système, c'est les hommes et les personnes qui ont infligé ces traumas à ces femmes-là, si on parle de la thérapie de groupe. Mais en fait, c'est pas important parce que là, on parle de se reconstruire, en fait, et de guérir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans ces histoires-là, où on va avoir un antagoniste ou une antagoniste, c'est qu'en fait, la seule chose qui suffit, c'est peut-être de le détruire ou de vaincre, et qu'après, tout va mieux. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faut switcher à penser à prendre soin. Prendre soin, pas forcément d'une façon douce et en retrait, même si c'est hyper important d'être doux aussi, mais prendre soin aussi d'une façon éclatante et brûlante, et dans la joie et dans la colère, et voilà.
Tu as commencé à en parler en parlant de Céline Sciamma. On en parlait aussi avec Iris Bray d'ailleurs, et c'est ce que tu fais dans ta BD. C'est l'importance de donner un corpus artistique, que ça soit aux jeunes lesbiennes ou aux jeunes qui ont subi des VSS, et c'est encore quelque chose qui est trop rare. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et toi, qu'est-ce que tu as voulu faire en, bon, je ne vais pas donner toutes les références, mais en citant des références qui t'ont touché toi dans ta BD?
Ben, moi, je pense que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement... Je me nourris beaucoup de l'art des autres pour ma vie à moi, pour mon bien-être et ma joie et ma colère. Et ça fait vraiment... Et regarder des films et lire des livres, écouter de la musique, c'est des choses qui sont nécessaires. Et je ne veux pas faire en mode, je suis trop une artiste et une poète maudite. Mais juste, en fait, par exemple, voilà, moi, j'adore pleurer devant un film parce que c'est un espace safe, fermé, où je peux avoir des émotions et où je me sens en sécurité et bien, et où je m'imprègne de cette histoire, bon, quand elle est bien, et pareil de lire des livres. Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a des gens qui me disent, les BD, on ressent moins les émotions, et je suis en mode, vraiment, parce que moi, au contraire, je suis une éponge, je trouve que... Et en effet, du coup, pour moi, c'est hyper important, et surtout parce que moi, j'ai un parcours un peu pas classique, parce qu'après, j'ai fait plein de diplômes qui servent à rien, mais j'étais une bonne élève, j'ai fait une prépa lettres, et après, j'ai enchaîné les diplômes qui ne servaient à rien, genre théâtre, BD, sociologie, YOLO, cinéma. Mais avant ça, donc voilà. Et en fait, j'ai fait bac littéraire, nanana. Et donc, en fait, tu lis toujours les mêmes textes, tu lis... Et aussi, j'étais quelqu'un, j'ai vraiment ce truc classique de j'adorais lire, j'étais une enfant, j'ai su lire tôt, j'ai lu tout le temps, je dévorais tout et tout. Et là, j'ai fait des études littéraires et j'étais en mode je n'en peux plus. Montesquieu, j'ai rien contre, mais comme c'est un peu too much, et tout ce qui est fait après les années 50, ça n'existe plus, et bon. Et en fait, de se rendre compte que tu vois jamais des gens qui te ressemblent, qui parlent de toi. Et moi, je sais qu'il y a eu un truc où très tôt, la musique a été super importante, et en fait, d'entendre des bouts de chansons qui me faisaient vriller le cœur et qui étaient hyper importantes, et de comprendre pourquoi, en fait, des choses qui me parlaient à un niveau aussi intime, qu'est-ce qui était important, et après, c'est ça que j'ai cherché dans les histoires, bref. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et même quand j'écris, par exemple, quand j'ai le syndrome de la page blanche. Quand je suis bloquée dans mon écriture, ma seule règle, c'est de jamais me forcer à écrire. Et donc, je vais regarder des films, lire des livres, lire des BD, pas pour copier, mais juste, même si c'est un sujet très différent, mais juste, cette histoire est racontée comme ça. Et en fait, j'aime ce ton-là, j'aime cette chose-là, et juste, en fait, avoir de l'inspiration. Et ben voilà, je me nourris beaucoup de tout ce que... C'est... Avant, je disais consommer, mais je trouve ça trop moche comme mot pour parler de l'art. C'est terrible, c'est tellement capitaliste. Mais toutes les livres, les films, les séries, les chansons, la musique, les bandes dessinées, les essais, enfin... Et bref, et du coup, je trouve ça aussi important de mettre ça dans mon travail aussi, parce que j'adore l'intertextualité, et là, en plus, c'est drôle, parce que, par exemple, mini-spoil, mais pas un spoil, mais un des livres dont je parle, c'est Une fièvre impossible à négocier, de Lola Lafont, et je ne l'ai pas du tout lu je l'ai lu pendant que je faisais le livre, et j'étais en mode, c'est fou, moi aussi j'écris un livre sur ça, sur les thérapies de groupe, etc. Et en fait, il y a eu je trouve ça trop chouette, en fait, de l'avoir lu, et après de me dire, ça m'aiguille dans une autre direction, de vouloir aussi comment, en fait, cette résonance que tu ressens en tant qu'humain, après tu te dis, je vais l'utiliser pour la mettre dans ce livre, et que ça fasse partie de mon histoire, et voilà, et donc... Et je sais pas, j'essaye de faire ça. Et c'est pour ça qu'à la fin aussi, je trouve ça toujours chouette de dire les musiques que j'ai écoutées, de parler des fois des films et tout ça. Mais c'est ça, c'est... Pour moi, tout existe ensemble. Et je trouve ça chouette aussi de montrer les contextes. Je pense que c'est un truc que j'aime en général, le contexte dans les histoires. ouais, dans bien ancrer les choses.
Et pour citer encore Clémence, ton personnage principal, ça me donne l'impression de me voir dans un miroir en forme de livre. Tu en parlais, tu viens d'en parler, j'avais déjà remarqué ça dans tes autres romans graphiques. Dans Adieu Triste Amour, tu faisais déjà la liste des œuvres qui t'avaient accompagné dans l'écriture de cet album. On retrouvait Mitski, November Ultra, My Chemical Romance pour le côté un peu émo. Quels sont-ils pour Clémence en colère ? Tu viens un peu de répondre, mais du coup, pour toi, il y a une grande importance de bien s'entourer quand on crée. Et peut-être, qu'est-ce que ces références disent de toi maintenant ?
Bah déjà, là, donc là, c'est juste des références musicales parce qu'il y a aussi de la fiction ou des essais qui ont été super importants dans l'écriture et voilà, je sais pas, après, ça serait long et tout ça. Mais pour la musique, bah, moi, par exemple, quand j'écris, des fois, j'ai besoin d'écrire en silence, mais souvent, j'ai besoin d'avoir de la musique et, enfin, je peux pas écrire en découvrant des choses ni en écoutant des gens parler. Bon, et donc, je vais aller vers de la musique que j'aime et qui va me mettre dans une certaine ambiance, que ce soit... Et c'est pas juste « Oh, je vais être triste » ou « Oh, je vais être fâchée ». Moi, je suis vraiment très... Encore une fois, je suis très attentive aux paroles. C'est drôle parce que mon frère et ma sœur sont musiciens. Et avec mon frère, on parle souvent de lui qui va s'attacher d'abord à la musique, à la composition, etc. Alors que moi, ça va vraiment être les paroles en premier qui vont venir résonner chez moi. Et donc là, par exemple, quand j'ai écrit ce livre, c'est drôle parce que j'ai réalisé que j'écoutais tout le temps H. Nico qui fait de la musique très fâchée et aussi triste. Mais genre, j'avais besoin de ça. Et puis de l'autre côté, bah, j'écoutais... par exemple, j'ai vraiment écouté en boucle et en boucle et en boucle, alors que c'est un album qui était déjà sorti avant, mais un album d'un chanteur québécois qui s'appelle Gab Bouchard et qui a fait son dernier album, s'appelle Graffigne. C'est un album qui parle notamment de suicide en thème filé et c'est très triste, et c'est d'une beauté incroyable. Et en fait, des fois, ça me met aussi dans un état d'esprit et ça m'accompagne. Et puis pareil, genre, des fois... Là, dans ce livre, je me suis vraiment fait plaisir et j'ai cité plein de choses. Genre, il y a une scène de karaoké, il y a des moments où il y a du Céline Dion, il y a Mylène Farmer. Et c'est aussi parce que c'est des choses qui, pour moi, enfin, tu vas chercher de la joie dans certaines choses. Tu vas chercher, par exemple, ouais, il y a Marika Ackman, une chanteuse que j'aime tellement, qui a sorti un album quand j'étais dans la dernière ligne droite d'écrire. Et j'étais en mode, waouh, c'est parfait, c'est exactement ça, une espèce d'amertume poétique. Et en fait, c'est hyper important pour moi. Et encore une fois, c'est hyper important l'ambiance dans laquelle la musique te met, mais il y a aussi des moments où je suis en mode, est-ce que ces personnes parlent à mon âme ? C'est un petit peu égocentrique, mais dans ces moments-là, je me dis, waouh, c'est fou, et ouais, c'est pour moi, ça m'aide vraiment à écrire, d'être entourée, entre guillemets, d'autres personnes qui créent des choses, et c'est pour ça que souvent, quand je fais mes livres, après, j'écris aux gens dont j'ai écouté la musique, dont j'ai regardé les films, et je suis un peu gênée, j'aimerais bien t'offrir mon livre, mais c'est vraiment pas pour faire de la pub, genre, c'est pas du tout en mode influence, prends une photo, non, c'est juste, en fait c'est super important ton travail pour moi, et est-ce que je peux genre te donner mon livre, tu peux le brûler si tu veux, mais bref. Et
tu as eu des réponses ?
Ouais, genre souvent je donne mes livres, j'essaye de passer entre les mailles de l'influence, mais c'est un peu compliqué parce que je sais qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup ce truc où, parce que le système, désolé, c'est un autre sujet, mais le système alimentaire change dans nos milieux, et donc il y a ce truc de t'envoies aux influenceurs ou à des gens dans l'espoir qui parlent d'un truc, et c'est un truc qui me met un peu mal à l'aise et que j'aime pas trop, et j'essaye toujours de dire, promis, c'est pas pour ça. Mais oui, du coup, c'est trop chouette, et je sais que ça met dans une... Des fois, j'ai un peu peur de que ça mette dans une position de fangirl, mais en même temps... Je suis très fan de plein de gens et ça me fait trop plaisir d'envoyer, d'avoir des fois des retours et des fois non, mais c'est ok. Je me dis genre, moi ça me fait toujours très plaisir quand des gens m'offrent leur travail parce qu'ils aiment le mien et pas parce qu'il y a l'espoir d'en parler derrière. Je trouve que ça me touche particulièrement et qu'il y a un truc de et pas en mode genre ouais, je suis trop importante pour les gens, mais c'est quand même un métier très solitaire et du coup, des fois, dire, regarde, genre, ça a existé dans un coin de ma tête pendant que j'ai fait telle autre chose. Je sais pas, c'est encore une fois la connexion des différentes œuvres et encore une fois le groupe, au final.
Eh bien, merci beaucoup, Nérion Mal, d'avoir été notre invitée cette semaine. Et merci d'avoir mis des mots sur ce que ressentaient toutes ces jeunes filles en feu. Je rappelle le titre de ta BD, Clémence en colère, paru aux éditions La Ville Brûle, est disponible dès aujourd'hui en librairie. Cet épisode, comme tous les autres, se réécoute sur toutes les applications de podcast où vous pouvez nous mettre des étoiles pour nous soutenir. Nos épisodes sont aussi à lire sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve ce mardi à 20h en direct sur les ondes de la Radio Campus Paris en compagnie de la drag queen Piche. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.